Les technologies éducatives évoluent à une vitesse folle. Chaque semaine, de nouveaux outils font leur apparition, promettant d'améliorer l'apprentissage et de transformer l'enseignement. Résultat? Une pression constante sur les établissements pour intégrer le numérique, moderniser les pratiques et suivre le rythme. Mais comment s'assurer que ces outils servent réellement l'apprentissage plutôt que de simplement suivre une tendance? C'est là que des modèles comme SAMR, TEPAC et PECRAT entrent en jeu. Ces acronymes représentent plus que de simples théories, ce sont de véritables boussoles pour évaluer l'intégration du numérique et guider nos décisions en tant que conseiller pédagogique. Dans cet épisode, on explore ensemble ces modèles pour mieux comprendre comment intégrer la technologie de manière réfléchie et efficace en enseignement supérieur.
Les beaux rôles avec Géraldine Lussier.
Pour discuter de ce sujet, je rejoins mes deux collègues CP, Alexandre Dalpan et Marie-Noëlle Corriveau-Tendland. Bonjour!
Bonjour!
Allô!
La première fois que j'ai été en contact avec les modèles d'intégration du numérique, c'est dans le cadre d'un cours Performa. Mais c'est un concept, j'avoue, qui est resté très théorique pour moi, que j'ai pas encore intégré dans ma pratique. Mais j'ai plusieurs collègues là, technopédagogues et je vais avoir tendance beaucoup à me référer à eux dans les situations où ces modèles pourraient fonctionner.
Bien, j'ai vraiment l'impression que tu décris ma situation, Géraldine, parce que c'est exactement la même chose. Je pense qu'on a même fait notre cours à Performa ensemble, où dans le fond, on est en contact avec ces modèles-là, mais très peu d'occasions dans ma pratique de les faire atterrir. Mais on a un CPTIC chez nous, donc le réflexe, c'est « Oups, t'as des questions sur l'intégration du numérique, on a un CPTIC ». Donc, c'est très, très ensilosé, finalement, dans nos différents rôles. Puis comme CP programme, on dirait que je me sens comme pas tant interpellée, finalement.
Ouais, c'est sûr que c'est une approche qui est pratiquée dans beaucoup d'endroits. Là. Comme tu dis, des silos amènent que la fonction va aller au CPTIC. Mais c'est vrai qu'en tant que CPTIC, je m'en souviens, j'ai quand même la chance de rencontrer beaucoup d'autres personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc, tu développes une compétence. Tu sais, je pense au réseau des Reptiques, là, des gens passionnés et compétents là-dedans. Puis j'en ai appris beaucoup avec eux dans les rencontres formelles, dans les ateliers, puis surtout dans les rencontres plus informelles où on discute avec les gens sur des sujets plus spécifiques.
Je comprends que c'est peut-être moins utilisé par les CP programmes comme Marie-Noëlle et moi, mais qu'on gagnerait vraiment à se servir de ces modèles pour s'assurer que quand on intègre le numérique, bien, il y a vraiment une plus-value, que c'est vraiment réfléchi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, c'est sûr que derrière ces modèles-là aident beaucoup à nourrir les questionnements pour faire une bonne intégration du numérique.
Mais tu vois, chez nous, dans les plans cadres de tous les programmes, on a ajouté une case sur justement l'intégration dans le cadre du cours, la mobilisation dans le cadre du cours des différentes habiletés là, du profil TIC, entre autres. Fait que c'est une première piste, finalement, pour amener les profs à réfléchir à l'intégration du numérique.
Ben, c'est une bonne idée, puis ça évite surtout certaines dérives dans l'intégration du numérique. Notre bord, ce qu'on a fait quand au Cégep Garneau, là, on a intégré la réalité virtuelle, puis on a travaillé, on a eu une grosse réflexion en amont avec l'équipe de profs concernés, puis on a utilisé les fameux modèles SAMR, TEPAC et PECRAT. Puis les trois se complètent parce que le premier, SAMR, va être plus pour évaluer l'efficacité de l'intégration du numérique dans le cours. Le TEPAC est très utilisé pour placer un peu le prof au milieu de tout ça dans son enseignement. Et puis le PECRAT va permettre d'évaluer finalement l'efficacité de tout ça pour l'apprentissage de l'étudiant. C'est une approche qui fonctionne assez bien pour l'intégrer. On l'a testé puis à plusieurs reprises.
Ça serait quoi les enjeux de l'accompagnement quand on décide d'utiliser ces modèles d'intégration numérique?
Ben, ce qui est certain, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a certaines embûches, on va dire, ou des enjeux. Selon moi, une des principales, c'est la difficulté d'intégration de ces concepts, notamment lors des processus d'évaluation et d'actualisation des programmes au Cégep. Parce que bien souvent, on se rend compte, comme CPTIC, que les décisions concernant tout ce qui touche le numérique puis sa place dans les classes, finalement, c'est pris qu'à la fin du processus. Donc, tout ce qui aurait dû être discuté en amont, c'est pas fait. Fait que finalement, ce travail, il comme peut-être pas complet, alors qu'il devrait être réalisé en équipe CP, toutes compétences et mandats respectifs mélangés, histoire de mettre les meilleures conditions d'apprentissage en place, finalement. Puis souvent, ça marche comme ça parce que les CPTIC portent ces modèles-là, ils les maîtrisent, ils connaissent, mais ils sont pas dans les rencontres avec les profs, ils sont très rarement dans les rencontres avec les profs, les rencontres régulières dans les actualisations de programme, c'est petit qu'il y est pas. Je sais pas chez vous, là, mais chez nous, c'était pas le cas. Puis, il y a un défi de temps derrière tout ça parce qu'on a peu de temps pour mettre en place ces affaires-là. Puis finalement, peut-être qu'il y aurait quelque chose à redéfinir dans le mandat, le rôle des CP, tout mandat confondu. Encore une fois, ça, c'est mon point de vue, mais je pense que ça aiderait beaucoup. Hein.
De ton côté, Marie-Noëlle?
Ah oui, mais j'abonde dans le même sens. Si on pouvait sortir des silos, ce serait vraiment génial puis beaucoup plus efficace dans notre travail. Pour ma part, je dirais qu'un des défis, puis là, c'est plus sur vraiment l'intégration du numérique que sur les modèles en tant que tels, là, mais tu sais, c'est de gérer l'emballement des profs qui font des découvertes numériques à quelque part dans un colloque ou en ligne. Dans le fond, c'est de les ramener à leur objectif pédagogique à travers ça. De l'autre côté, bien, on a aussi un certain désengagement, des fois une peur, une crainte vis-à-vis le numérique chez certains profs qui vont se définir carrément comme des dinosaures avec presque un petit peu de fierté. Et donc, avec eux, tu sais, c'est vraiment d'appliquer la théorie du plus petit pas possible dans ces cas-là. Donc, gérer, tu sais, la résistance de la part des profs, la compétence numérique en général, je pense qu'elle fait peur à plusieurs. Tu sais, c'est comme une nouvelle affaire, ça vient s'ajouter, on n'a pas le temps, tu as parlé du temps tout à l'heure, tu sais, c'est un peu ça. Donc, quand leur sentiment d'efficacité personnelle, il n'est pas là, il n'est pas présent au niveau du numérique, bien, que je sois CP numérique ou que je sois CP programme, j'accompagne des profs, il faut que je travaille ça avec eux, dans le fond.
C'est vrai.
Donc, comme CP, on est vraiment là pour avoir un pas de recul dans les différents projets puis analyser les impacts et voir la faisabilité. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter pour utiliser ces modèles-là. Encore une fois, merci à vous deux. À bientôt.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Pour creuser davantage le sujet, je reçois Félix Arguin. Il a œuvré pendant 13 ans comme répondantique au niveau secondaire et il travaille aujourd'hui comme coordonnateur pédago-numérique à Immersion CP. Bonjour Félix.
Bonjour Géraldine.
Les modèles d'intégration du numérique, comment ça s'articule dans la pratique?
Bien, on est conscient que les changements technologiques vont quand même assez rapidement aujourd'hui. C'est donc très important d'évaluer périodiquement nos façons de faire. Donc, est-ce qu'on conserve une façon de faire par habitude ou par réelle nécessité? Les modèles d'intégration du numérique, c'est en réalité des guides de cohérence. Est-ce qu'on utilise une technologie pour les bonnes raisons? C'est la question à laquelle ça nous permet de répondre.
Et qu'est-ce que ça permet concrètement?
Ben, concrètement, c'est peut-être une façon d'aller chercher une meilleure acuité pédagogique, donc de parvenir plus adéquatement à l'objectif qui est visé. Ça peut passer par une efficacité accrue, un gain de temps pour l'étudiant et pour l'enseignant, mais ça peut aussi se manifester par un impact plus grand sur la profondeur des apprentissages, par exemple.
OK. Et il existe aussi le modèle TPAC. C'est quoi ce modèle-là, puis à quoi il sert?
Il faut se représenter le modèle TPAC comme un diagramme de Venn à trois cercles. Chacun de ces trois cercles-là représente les connaissances de l'enseignant sur un plan d'abord disciplinaire, ensuite sur le plan pédagogique et finalement sur le plan technologique. À la jonction de ces trois cercles-là se trouve une espèce de zone d'harmonie. Et cette zone d'harmonie-là, c'est ce qu'on vise et ça aide à prévenir les déséquilibres.
Quand tu parles de déséquilibre, tu fais référence à quoi?
Bon, si j'illustre par un exemple très concret, on pourrait avoir un enseignant qui serait tenté de conserver une formule trop longtemps. Donc, une tâche pédagogique qui serait montée sur une application qui est aujourd'hui désuète. Donc, il y a une réflexion à faire sur la pérennité et d'autres réflexions qui pourraient être appuyées par le modèle TPAC. Je vais donner un autre exemple. Imaginons un enseignant qui a travaillé très fort à monter une activité sur une application très récente montée par un petit développeur européen. Et ce petit développeur européen-là serait racheté en cours de route par un géant du numérique qui ferait passer la licence annuelle, disons, de 30 $ par année à 600 $ par année. On s'entend que ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent se permettre ça, donc le 90 heures investi pour le développement de l'activité pédagogique tombe un peu à l'eau. Donc, c'est un peu à ça que sert le modèle TPAC, c'est de réfléchir aux implications des technologies en lien avec les contenus disciplinaires, puis en lien aussi avec les méthodes d'enseignement qu'on souhaite appliquer.
Le modèle PICRAT semble faire le pont entre la technologie et l'engagement. Explique-nous ça.
Bien, il faut se représenter le modèle PICRAT d'abord comme une matrice à deux axes. Il y a un premier axe qui concerne le niveau d'engagement de l'étudiant, c'est l'axe vertical. Donc, sur cet axe-là, on a trois points. Le premier qui est la passivité, le deuxième qui est l'interactivité, puis le troisième qui est la créativité. Sur l'axe horizontal, on retrouve l'intégration, plutôt le niveau d'intégration du numérique, donc le premier niveau. C'est le remplacement, le deuxième, c'est l'augmentation et le troisième, c'est la transformation. On s'entend que l'axe vertical va concerner davantage le travail de l'enseignant. Donc, cette matrice-là nous permet de situer les activités pédagogiques en fonction du niveau d'intégration des technologies, mais également en fonction du niveau d'engagement des étudiants.
Est-ce qu'on doit toujours viser les niveaux les plus élevés?
C'est peut-être un réflexe que les gens vont avoir au début, mais il faut se rappeler que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est soutenable à long terme. Quand on est dans les niveaux les plus élevés, soit la créativité pour l'étudiant puis la transformation pour l'enseignant, ce sont des niveaux assez élevés. Si je réfère, par exemple, à la taxonomie de Bloom, je ne crois pas que c'est une bonne idée de lancer immédiatement des étudiants dans des tâches créatives alors que la base n'est pas comblée.
En effet.
Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut l'utiliser avec parcimonie et surtout avec un souci de cohérence et d'équilibre.
Félix, quel conseil donnerais-tu à un CP qui souhaite utiliser ces modèles?
Peut-être commencer par les appliquer à soi-même avant de les appliquer aux autres. C'est des modèles quand même qui doivent être bien intégrés avant de les proposer. Donc, essayer de voir dans quelle mesure est-ce que les outils techno peuvent modifier nos propres tâches ou susciter un meilleur engagement chez nous. C'est vraiment en les mettant en pratique qu'on est capable de voir leur potentiel, mais surtout être capable d'évaluer leurs limites.
Avec l'arrivée de l'IA générative, comment ces modèles-là nous aident à réfléchir à son intégration pédagogique?
C'est une très, très bonne question. Ça offre un cadre de réflexion pour la redéfinition des tâches. Peut-être ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est que c'est pas nécessairement l'enseignant qui choisit d'intégrer la technologie, c'est plus la technologie qui débarque puis qui s'impose un peu dans la vie de l'enseignant. C'est donc encore plus important pour l'enseignant de définir la place qu'il souhaite réserver à cette technologie-là d'intelligence artificielle. Puis en ce sens-là, ben, les modèles d'intégration du numérique vont offrir des pistes intéressantes pour valider la cohérence des choix.
Bon, maintenant que j'en connais un peu plus avec ces modèles-là, ça se pourrait que je me risque avec un projet numérique. Merci, Félix.
Merci à toi, Géraldine.
La série balado Les beaux rôles est une création d'Immersion CP, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Sherbrooke. Animation, Géraldine Lucier. Co-animation, Alexandre Dalpan et Marie-Noëlle Corriveau-Tendland. Scénarisation, Félix Arguin. Réalisation, Phonique. Merci à nos invités pour leur contribution.